Césarine Dietrich, deuxième partie. Je n'ai fait aucun reproche, me dit-il. J'ai fait semblant de ne m'être aperçu de rien, et je n'ai pas eu besoin d'arracher la promesse de ne pas danser avant un an. Césarine est venue d'elle-même au-devant de mes réflexions. Elle m'a raconté la soirée d'avant-hier. Elle a doucement blâmé l'irréflexion, pour ne pas dire la légèreté de sa tante. Elle m'a fait l'aveu qu'elle avait promis de m'engager à rouvrir les salons, en ajoutant qu'elle me suppliait de ne pas le permettre encore. Je n'ai donc eu qu'à l'approuver, au lieu de la gronder. Elle s'était arrangée pour cela, comme toujours. Et vous croyez qu'il en sera toujours ainsi ? J'en suis sûre, répondit-il avec abattement. Elle est plus forte que moi, elle le sait. Elle trouvera moyen de n'avoir jamais tort. Mais si elle se laisse gouverner par sa propre raison, qu'importe qu'elle ne cède pas à la vôtre. Le meilleur gouvernement possible serait celui où il n'y aurait jamais nécessité de commander. N'arrive-t-elle pas, de par sa libre volonté, à se trouver d'accord avec vous ? Vous admettez qu'une femme peut être constamment raisonnable, et que par conséquent, elle a le droit de se dégager de toute contrainte ? J'admets qu'une femme puisse être raisonnable, parce que je l'ai toujours été, sans grand effort et sans grand mérite. Quant à l'indépendance à laquelle elle a droit dans ce cas-là, sans être une libre penseuse bien prononcée, je la regarde comme le privilège d'une raison parfaite et bien prouvée. Et vous pensez qu'à 16 ans, Césarine est déjà cette merveille de sagesse et de prudence qui ne doit obéir qu'à elle-même ? Nous travaillons à ce qu'elle le devienne. Puisque sa passion est de ne pas obéir et de ne jamais céder, encourageons sa raison et ne brisons pas sa volonté. Ne sévissez, monsieur Dietrich, que le jour où vous verrez une fantaisie blâmable. Vous trouvez rassurante cette irrésolution qu'elle vous a confiée ? Cette prétendue ignorance de ses goûts et de ses désirs ? Je la crois sincère. Prenez garde, mademoiselle de Nermont. Vous êtes charmée, fascinée. Vous augmenterez son esprit de domination en le subissant. Il protestait en vain. Il le subissait, lui, et bien plus que moi. La supériorité de sa fille, en se révélant de plus en plus, lui créait une étrange situation. Elle flattait son orgueil et froissait son amour-propre. Il eût préféré Césarine impérieuse avec les autres, soumise à lui seul. « Il faut, lui dis-je, avant de nous quitter, conclure définitivement sur un point essentiel. Il faut, pour seconder vos vues, si je les partage, que je sache votre opinion sur la vie mondaine que vous redoutez tant pour votre fille. Craignez-vous que ce ne soit pour elle un enivrement qui la rendrait frivole ? Non, elle ne peut pas devenir frivole. Elle tient de moi plus que de sa mère. Elle vous ressemble beaucoup, donc vous n'avez rien à craindre pour sa santé ? Non, elle n'abusera pas du plaisir. Alors, que craignez-vous donc ? Il fut embarrassé pour me répondre. Il donna plusieurs raisons contradictoires. Je tenais à pénétrer toute sa pensée, car mon rôle devenait difficile si M. Dietrich était inconséquent. Force me fut de constater intérieurement qu'il l'était, qu'il commençait à le sentir et qu'il en éprouvait de l'humeur. Césarine l'avait bien jugé, en somme. Il avait besoin de lutter toujours et n'en voulait jamais convenir. Il termina l'entretien en me témoignant beaucoup de déférence et d'attachement, en me suppliant de nouveau de ne jamais quitter sa fille tant qu'elle ne serait pas mariée. « Pour que je prenne cet engagement, lui dis-je, il faut que vous me laissiez libre de penser à ma guise et d'agir, dans l'occasion, sous l'inspiration de ma conscience. » Oui, certes, je l'entends ainsi, s'écria-t-il en respirant comme un homme qui échappe à l'anxiété de l'irrésolution. Je veux abdiquer entre vos mains pour élever une femme. Il faut une femme. En effet, depuis ce jour, il se fit en lui un notable changement. Il cessa de contrarier systématiquement les tendances de sa fille, et je m'applaudis de ce résultat, que je croyais le meilleur possible. Me trompais-je? N'étais-je pas, à mon insu, la complice de Césarine pour écarter l'obstacle qui limitait son pouvoir? Monsieur Dietrich avait-il pénétré dans le vrai de la situation en me disant que j'étais charmée, fascinée, enchaînée par mon élève? Si j'ai eu cette faiblesse, c'est un malheur que de graves chagrins m'ont fait expier plus tard. Je croyais sincèrement prendre la bonne voie et apporter du bonheur en modifiant l'obstination du père au profit de sa fille. Ce profit, je le croyais tout moral et intellectuel, car je n'en pouvais plus douter. On ne pouvait diriger Césarine qu'en lui mettant dans les mains le gouvernail de sa destinée, sauf à veiller sur les dangers qu'elle ignorait, qu'elle croyait fictifs et qu'il faudrait éloigner ou atténuer à son insu. L'hiver s'écoula sans autres émotions. Ces dames reçurent leurs amis et ne s'ennuyèrent pas. Césarine, avec beaucoup de tact et de grâce, sut contenir la gaieté lorsqu'elle menaçait d'arriver aux oreilles de son père, qui se retirait de bonne heure, mais qui, disait-elle, ne dormait jamais des deux yeux à la fois. Il faut que je dise un mot de la société intime des demoiselles Dietrich. C'était d'abord trois autres demoiselles Dietrich, les trois filles de Monsieur Karl Dietrich et leur mère, jolie collection de parvenus bien élevés, mais très fières de leur fortune et très ambitieuses, même la plus petite, âgée de 12 ans, qui parlait mariage comme si elle eût été majeure. Son babil était l'amusement de la famille. La liberté enfantine de ses opinions était la clé qui ouvrait toutes les discussions sur l'avenir et sur les rêves dorés de ces demoiselles. Le père, Karl Dietrich, était un homme replet et jovial, tout l'opposé de son frère, qu'il respectait à l'égal d'un demi-dieu et qu'il consultait sur toutes choses, mais sans lui avouer qu'il ne suivait que la moitié de ses conseils, celle qui flattait ses instincts de vanité et ses habitudes de bonhomie. Il avait un grand fond de vulgarité qui paraissait en toute chose, mais il était honnête homme. Il n'avait pas de vice, il aimait sa famille réellement. Si son commerce n'était pas le plus amusant du monde, il n'était jamais choquant ni répugnant, et c'est un mérite assez rare chez les enrichis de notre époque pour qu'on en tienne compte. Il adorait Césarine, et par un naïf instinct de probité morale, il la regardait comme la reine de la famille. Il ne craignait pas de dire qu'il était non seulement absurde, mais coupable de contrarier une créature aussi parfaite. Césarine connaissait son empire sur lui. Elle savait que si, à 15 ans, elle eût voulu faire des dettes, son oncle lui eût confié la clé de sa caisse. Elle avait dans ses armoires des étoffes précieuses de tous les pays et dans ses écrins des bijoux admirables qu'il lui donnait en cachette de ses filles, disant qu'elle n'avait pas de goût et que Césarine seule pouvait apprécier les belles choses. Cela était vrai. Césarine avait le sens artiste, critique, très développé, et son oncle était payé de ses dons quand elle en faisait l'éloge. Madame Karl Dietrich voyait bien la partialité de son mari pour sa nièce. Elle feignait de l'approuver et de la partager, mais elle en souffrait. Et à travers les adulations et les caresses dont elle et ses filles accablaient Césarine, il était facile de voir percer la jalousie secrète. La famille Dietrich ne se bornait pas à ce groupe. On avait beaucoup de cousins, allemands plus ou moins, et de cousines, plus ou moins françaises, provenant de mariages et d'alliances. Tout ce qui tenait de près ou de loin aux frères Dietrich ou à leurs femmes s'était attaché à leur fortune et serré sous leurs ailes pour prospérer dans les affaires ou vivre dans les emplois. Ils avaient été généreux et serviables, se faisant un devoir d'aider les parents et pouvant, grâce à leur grande position, invoquer l'appui des plus hautes relations dans la finance. Les fastueuses réceptions de Madame Hermann Dietrich avaient étendu ce crédit à tous les genres d'omnipotence. On avait dans tous les ministères, dans toutes les administrations, des influences certaines. Ainsi, tout ce qui était apparenté au Dietrich était casé avantageusement. C'était un clan, une clientèle obligée qui représentait une centaine d'individus, plus ou moins reconnaissants, mais tous placés dans une certaine dépendance des frères Dietrich, de M. Hermann particulièrement, et formant ainsi une petite cour dont l'encens ne pouvait manquer de porter à la tête de Césarine. Je n'ai jamais aimé le monde. Je ne me plaisais pas dans ces réunions beaucoup trop nombreuses pour justifier leur titre de relations intimes. Je n'en faisais rien paraître, mais Césarine ne s'y trompait pas. « Nous sommes trop bourgeois pour vous, » me disait-elle, « et je ne vous en fais pas un reproche, car moi aussi je trouve ma nombreuse famille très insipide. Ils ont beau vouloir se distinguer les uns des autres, ses chers parents, et avoir suivi diverses carrières, je trouve que mon jeune cousin, le peintre de genre, est aussi positif et aussi commerçant que ma vieille cousine, la fabricante de papier peint, et que le cousin compositeur de musique n'a pas plus de feu sacré que mon oncle à la mode de Bretagne qui gouverne une filature de coton. Je vous ai entendu dire qu'il n'y avait plus de différences tranchées dans les divers éléments de la société moderne, que les industriels parlaient d'art et de littérature, aussi bien que les artistes parlent d'industrie ou de sciences appliquées à l'industrie. Moi, je trouve que tous parlent mal de tout, et je cherche en vain autour de moi quelque chose d'original ou d'inspiré. Ma mère savait mieux composer son salon. Et si elle y admettait avec amabilité tous ces comparses que vous voyez autour de moi, elle savait mettre en scène des distinctions et des élégances réelles. Quand mon père me permettra de le faire rentrer dans le vrai monde sans sortir de chez lui, vous verrez une société plus choisie et plus intéressante, des personnes qui n'y viennent pas pour approuver tout, mais pour discuter et apprécier, de vrais artistes, de vraies grandes dames, des voyageurs, des diplomates, des hommes politiques, des poètes, des gens du noble faubourg et même des représentants de la comique race des penseurs. Vous verrez, ce sera drôle et ce sera charmant. Mais je ne suis pas bien pressée de me retrouver dans ce brillant milieu. Il faut que je sois de force à y briller aussi. J'y ai trôné pour mes beaux yeux sur ma petite chaise d'enfant gâté. Devenue maîtresse de maison, il faudra que je réponde à d'autres exigences, que j'aie de l'instruction, un langage attrayant, des talents solides, et, ce qui me manque le plus jusqu'à présent, des opinions arrêtées. Travaillons, ma chère amie, faites-moi beaucoup travailler. Ma mère se contentait d'être une femme charmante, mais je crois que j'aurai un rôle plus difficile à remplir que celui de montrer les plus beaux diamants, les plus belles robes et les plus belles épaules. Il faut que je montre le plus noble esprit et le plus remarquable caractère. Travaillons. Mon père sera content et il reconnaîtra que la lutte de la vie est facile à qui s'est préparé sans orage domestique à dominer son milieu. Si je fais parler ici Césarine avec un peu plus de suite et de netteté qu'elle n'en avait encore, c'est pour abréger et pour résumer l'ensemble de nos fréquentes conversations. Je puis affirmer que ce résumé, dont j'aidais le développement par mes répliques et mes observations, est très fidèle quand même, et qu'à 18 ans, Césarine ne s'était pas écartée du programme entrevu et formulé jour par jour. Je passerai donc rapidement sur les années qui nous conduisirent à cette sorte de maturité. Nous allions tous les étés à Mirval, où elle travaillait beaucoup avec moi, se levant de grand matin et ne perdant pas une heure. Ses récréations étaient courtes et actives. Elle allait rejoindre son père au champ ou dans son cabinet, s'intéressait à ses travaux et à ses recherches. Il en était si charmé qu'il devint son adorateur et son esclave. Et cela eût été pour le mieux si Césarine ne m'eût avoué que l'agriculture ne l'intéressait nullement, mais qu'elle voulait faire plaisir à son père, c'est-à-dire le charmer et le soumettre. J'aurais pu craindre qu'elle n'agît de même avec moi, si je ne l'eusse vu aimer réellement l'étude et chercher à dépasser la somme d'instruction que j'avais pu acquérir. Je sentis bientôt que je risquais de rester en arrière et qu'il me fallait travailler aussi pour mon compte. C'est à quoi je ne manquais pas, mais je n'avais plus le feu et la facilité de la jeunesse. Mon emploi commençait à m'absorber et à me fatiguer, lorsque des préoccupations personnelles d'un autre genre commencèrent à s'emparer de mon élève et à ralentir sa curiosité intellectuelle. Avant d'entrer dans cette nouvelle phase de notre existence, je dois rappeler celle de mon neveu et résumer ce qui était advenu de lui durant les 3 années que je viens de franchir. Je ne puis mieux rendre compte de son caractère et de ses occupations qu'en transcrivant la dernière lettre que je reçus de lui à Mireval dans l'été de 1858. « Ma marraine chérie, ne soyez pas inquiète de moi. Je me porte toujours bien. Je n'ai jamais su ce que c'est que d'être malade. Ne me grondez pas de vous écrire si peu. J'ai si peu de temps à moi. Je gagnais 1 200 francs, j'en gagne 2 000 aujourd'hui. Et je suis toujours logée et nourrie dans l'établissement. J'ai toujours mes soirées libres, je lis toujours beaucoup. Vous voyez donc que je suis très content, très heureux et que j'ai pris un très bon parti. Dans 10 ou 12 ans, je gagnerai certainement de 10 à 12 000 francs grâce à mon travail quotidien et à de certaines combinaisons commerciales que je vous expliquerai quand nous nous reverrons. À présent, traitons la grande question de votre lettre. Vous me dites que vous avez de l'aisance et que vous comptez me confier, j'entends bien me donner, vos économies, pour qu'au lieu d'être un petit employé à gage, je puisse apporter ma part d'associé dans une exploitation quelconque. Merci, ma bonne tante. Vous êtes l'ange de ma vie. Mais je n'accepte pas. Je n'accepterai jamais. Je sais que vous avez fait des sacrifices pour mon éducation. C'était immense pour vous alors. J'ai dû les accepter. J'étais un enfant. Mais j'espère bien m'acquitter envers vous. Et si au lieu d'y songer, je me laissais gâter encore, je rougirais de moi. Comment un grand gaillard de 21 ans se ferait porter sur les faibles bras d'une femme délicate, dévouée, laborieuse à son intention? Ne m'en parlez plus, si vous ne voulez m'humilier et m'affliger. Votre condition est plus précaire que la mienne, pauvre tante. Vous dépendez d'un caprice de femme, car vous aurez beau louer le noble caractère et le grand esprit de votre élève, tout ce qui repose sur un intérêt moral est bâti sur des rayons et des nuages. Il n'y a de solide et de fixe que ce qui est rivé à la terre par l'intérêt personnel le plus prosaïque et le plus grossier. Je n'ai pas d'illusion, moi. J'ai déjà l'expérience de la vie. Je suis ancré chez mon patron parce que j'y fais entrer de l'argent et n'en laisse pas sortir. Vous êtes, vous, un objet de luxe intellectuel dont on peut se priver dans un jour de dépit, dans une heure d'injustice. On peut même vous blesser involontairement dans un moment d'humeur. Et je sais que vous ne le supporteriez pas, à moins que mon avenir ne fût dans les mains de Monsieur Dietrich. Or, voilà ce que je ne veux pas, ce que je n'ai pas voulu. Vous m'avez un peu grondé de mon orgueil en me voyant repousser sa protection. Vous n'avez donc pas compris, ma reine, que je ne voulais pas dépendre de l'homme qui vous tenait dans sa dépendance, que je ne voulais pas vous exposer à subir quelque déplaisir chez lui par dévouement pour moi. Si, Lorsqu'il m'a fait inviter par vous à me mêler à ces petites réunions de famille, j'ai répondu que je n'avais pas le temps. C'est que je savais que dans ces réunions, tous étaient plus ou moins les obligés des Dietrich, et que j'y aurais porté malgré moi un sentiment d'indépendance qui eût pu se traduire par une franchise intolérable. Et vous eussiez été responsable de mon impertinence. Voilà ce que je ne veux pas non plus. Restons donc comme nous voilà. Moi, votre obligé à jamais, j'aurai beau vous rendre l'argent que vous avez dépensé pour moi, rien ne pourra m'acquitter envers vous de vos tendres soins, de votre amour maternel. Rien que ma tendresse, qui est aussi grande que mon cœur peut en contenir. Vous, vous resterez ma mère, et vous ne serez plus jamais mon caissier. Je veux que vous puissiez retrouver votre liberté absolue, sans jamais craindre la misère, et que vous ne restiez pas une heure dans la maison étrangère si cette heure-là ne vous est pas agréable à passer. Voilà, ma tante, que ce soit dit une fois pour toutes. Je vous ai vue la dernière fois avec une petite robe retournée qui n'était guère digne des tentures de satin de l'hôtel Dietrich. Je me suis dit, ma tante n'a plus besoin de ménager ainsi quelques mètres de soie. Elle n'est pas avare, elle est même peu prévoyante pour son compte. C'est donc pour moi qu'elle fait des économies. À d'autres. Le premier argent dont je pourrais strictement me passer, je veux l'employer à lui offrir une robe neuve. Et le moment est venu. Vous recevrez demain matin une étoffe que je trouve jolie et que je sais être du goût le plus nouveau. Elle sera peut-être critiquée par l'incomparable mademoiselle Dietrich, mais je m'en moque si elle vous plaît. Seulement je vous avertis que si vous la retournez quand elle ne sera plus fraîche, je m'en apercevrai bien et que je vous enverrai une toilette qui me ruinera. Pardonne-moi ma pauvre offrande, petite marraine, et aime toujours le rebelle enfant qui te chérit et te vénère. Paul Gilbert. Il me fut impossible de ne pas pleurer d'attendrissement en achevant cette lettre. Césarine me surprit au milieu de mes larmes et voulut absolument en savoir la cause. Je trouvais inutile de la lui dire. Mais comme elle se tourmentait à chercher en quoi elle avait pu me blesser et qu'elle s'en faisait un véritable chagrin, je lui laissai lire la lettre de Paul. Elle la lut froidement et me la rendit sans rien dire. « Vous voilà rassurée, » lui dis-je. Elle répondit « Oui » et nous passâmes à la leçon. Quand elle fut finie, « Votre neveu, » me dit-elle, « est un original, mais sa fierté ne me déplaît pas. Il a eu bien tort, par exemple, de croire que sa franchise eût pu me blesser. Elle serait venue comme un rayon de vrai soleil au milieu des nuages d'encens, fades ou grossiers que je respire à Paris. Il me croit sotte, je le vois bien, et quand il me traite d'incomparable, cela veut dire qu'il me trouve laide. » Il ne vous a jamais vu. Si fait, comment pouvez-vous croire qu'il serait venu pendant 4 hivers chez vous sans que je l'eusse jamais rencontré? Vous avez beau demeurer dans un pavillon de l'hôtel qui est séparé du mien, vous avez beau ne le faire venir que les jours où je sors, j'étais curieuse de le voir. Et une fois, il y a 2 ans, moi et mes 3 cousines, nous l'avons guetté comme il traversait le jardin. Puis, comme il avait passé très vite et sans daigner lever les yeux vers la terrasse où nous étions, nous avons guetté sa sortie en nous tenant sur le grand perron. Alors il nous a salués en passant près de nous. Et bien qu'il ait pris un air fort discret ou fort distrait, je suis sûre qu'il nous a très bien regardés. Il vous a mal regardé, au contraire, ou il n'a pas su laquelle des 4 étiez-vous. Car l'année dernière, il a vu chez moi votre photographie, et il m'a dit qu'il vous croyait petite et très brune. C'est donc votre cousine Marguerite qu'il avait prise pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il a dit de ma photographie? Rien, il pensait à autre chose. Mon neveu n'est pas curieux, et je le crois très peu artiste. Dites qu'il est d'un positivisme effroyable. Effroyable est un peu dur, mais j'avoue que je le trouve un peu rigide dans sa vertu, même un peu misanthrope pour son âge. Je m'efforcerai de le guérir de sa méfiance et de sa sauvagerie. Et vous me le présenterez l'hiver prochain ? Je ne crois pas que je puisse l'y décider. C'est une nature en qui la douceur n'empêche pas l'obstination. Alors, il me ressemble ? Oh, pas du tout, c'est votre contraire. Il sait toujours ce qu'il veut et ce qu'il est. Au lieu de se plaire à influencer les autres, il se renferme dans son droit et dans son devoir, avec une certaine étroitesse que je n'approuve pas toujours, mais qu'il me faut bien lui pardonner à cause de ses autres qualités. Quelles qualités ? Je ne lui en vois déjà pas tant. La droiture, le courage, la modestie, la fierté, le désintéressement, et par-dessus tout, son affection pour moi. Nous fûmes interrompus par l'arrivée au salon du marquis de Rivonnières. Césarine donna un coup d'œil au miroir, et, s'étant assurée que sa tenue était irréprochable, elle me quitta pour aller le recevoir. Ce serait le moment de poser dans mon récit ce personnage, qui, depuis quelques semaines, était le plus assidu de nos voisins de campagne. Mais je crois qu'il vaut mieux ne pas m'interrompre et laisser à Césarine le soin de dépeindre l'homme qui aspirait ouvertement à sa main. « Que pensez-vous de lui ?» me dit-elle quand il fut parti. « Rien encore, lui répondis-je, sinon qu'il a une belle tournure et un beau visage. Je ne me tiens pas auprès de vous au salon quand votre père ou vous ne réclamez pas ma présence, et j'ai à peine entrevu le marquis 2 ou 3 fois. Eh bien, je la réclame à l'avenir, votre chère présence, quand le marquis viendra ici. Ma tante est une mauvaise gardienne, et il ose me faire la cour. Votre père m'a dit qu'il ne voyait pas avec déplaisir ses assiduités, et qu'il ne s'opposait pas à ce que vous eussiez le temps de le connaître. Voilà, je crois, ce qui est convenu entre lui et monsieur de Rivonnières. Vous déciderez si vous voulez vous marier bientôt, et dans ce cas, on vous proposera ce parti, qui est à la fois honorable et brillant. Si vous ne l'acceptez point, on dira que vous ne voulez pas encore vous établir, et monsieur de Rivonnières se tiendra pour dit qu'il n'a point su modifier vos résolutions. Oui, voilà bien ce que m'a dit papa. Mais ce qu'il pense, il ne l'a dit ni à vous ni à moi. Que pense-t-il, selon vous ? Il désire vivement que je me marie le plus tôt possible, à la condition que nous ne nous séparerons pas. Il m'adore, mon bon père, mais il me craint. Il voudrait bien, tout en me gardant près de son cœur, être dégagé de la responsabilité qui pèse sur lui. Il se voit forcé de me gâter. Il s'y résigne, mais il craint toujours que je n'en abuse. Plus je suis studieuse, retirée, raisonnable en un mot, plus il craint que ma volonté renfermée n'éclate en fabuleuse excentricité. N'entretenez-vous pas cette crainte par quelque paradoxe dont vous ne pensez pas un mot et que vous pourriez vous dispenser d'émettre devant lui ? J'entretiens de loin en loin cette crainte, parce qu'elle me préserve de l'autorité qu'il se fût attribuée s'il m'eût trouvé trop docile. Ne me grondez pas pour cela, cher ami. Je mène mon père à son bonheur et au mien. Les moyens dont je me sers ne vous regardent pas. Que votre conscience se tienne tranquille. Mon but est bon et louable. Il faut, pour y parvenir, que mon père conserve sa responsabilité et ne la délègue pas à un nouveau venu, qui me forcerait à un nouveau travail pour le soumettre. Je pense que vous n'auriez pas grand-peine avec monsieur de Rivonnières. Il passe dans le pays pour l'homme le plus doux qui existe. Ce n'est pas une raison. Il est facile d'être doux aux autres quand on est puissant sur soi-même. Moi aussi je suis douce, n'est-il pas vrai? Et quand je m'en vante, je vous effraye, convenez-en. Vous ne m'effrayez pas tant que vous croyez, mais je vois que le marquis, s'il ne vous effraye pas, vous inquiète. Ne sauriez-vous me dire comment vous le jugez ? Eh bien, je ne demande pas mieux. Attendez, il est ce qu'au temps de Louis XIII ou de Louis XIV, on eût appelé un seigneur accompli. Et voici comment on l'eût dépeint. Beau cavalier, adroit à toutes les armes, bel esprit, agréable causeur, homme de grande manière, admirable à la danse. Quand on avait dit tout cela d'un homme du monde, il fallait tirer l'échelle et ne rien demander de plus. Son mérite était au grand complet. Les femmes d'aujourd'hui sont plus exigeantes, et en qualité de petite bourgeoise, j'aurais le droit de demander si ce phénix a du cœur, de l'instruction, du jugement et quelques vertus domestiques. On est honnête dans la famille Dietrich, on n'a pas de vice, et vous avez remarqué, vous qui êtes une vraie grande dame, que nous avions fort bon ton. Cela vient de ce que nous sommes très purs, partant très orgueilleux. Je prétends résumer en moi tout l'orgueil et toute la pureté de mon humble race. Les perfections d'un gentilhomme me touchent donc fort peu s'il n'a pas les vertus d'un honnête homme. Et je ne sais du marquis de Rivonnières que ce qu'on en dit. Je veux croire que mon père n'a pas été trompé, qu'il a un noble caractère, qu'on ne lui connaît pas de cause sérieuse de désordre, qu'il est charitable, bienveillant, généralement aimé des pauvres du pays, estimé de toutes les classes d'habitants. Cela ne me suffit pas. Il est riche, c'est un bon point. Il n'a pas besoin de ma fortune, à moins qu'il ne soit très ambitieux. Ce n'est peut-être pas un mal, mais encore faut-il savoir quel est son genre d'ambition. Jusqu'à présent, je ne le pénètre pas bien. Il paraît quelquefois étonné de mes opinions, et tout à coup il prend le parti de les admirer, de dire comme moi, et de me traiter comme une merveille qui l'éblouit. Voilà ce que j'appelle me faire la cour, et ce que je ne veux pas permettre. Je veux qu'il se laisse juger, qu'il s'explique si je le choque, qu'il se défende si je l'attaque. Et ma tante, qui est résolue à le trouver sublime parce qu'il est marquis, m'empêche de le piquer, en se hâtant d'interpréter mes paroles dans le sens le plus favorable à la vanité du personnage. Cela me fatigue et m'ennuie, et je désire que vous soyez là pour me soutenir contre elle et m'aider à voir clair en lui. » Deux jours plus tard, le marquis amena un joli cheval de selle qu'il avait offert à Césarine de lui procurer. Il l'avait gardé chez lui un mois pour l'essayer, le dresser et se bien assurer de ses qualités. Il le garderait pour lui, disait-il, s'il ne lui plaisait pas. Césarine alla passer une jupe d'Amazone et courut essayer le cheval dans le manège en plein air qu'on lui avait établi au bout du parc. Nous la suivîmes tous. Elle montait admirablement et possédait par principe toute la science de l'équitation. Elle manœuvra le cheval un quart d'heure, puis elle sauta légèrement sur la berge de gazon du manège sablé en disant à monsieur de Rivonnières, qui la contemplait avec ravissement, « C'est un instrument exquis, ce joli cheval, mais il est trop dressé. Ce n'est plus une volonté ni un instinct, c'est une machine. Et s'il vous plaît à vous, gardez-le. Moi, il m'ennuierait. » « Il y a, lui répondit le marquis, un moyen bien simple de le rendre moins maniable. C'est de lui faire oublier un peu ce qu'il sait en le laissant libre au pâturage. Je me charge de vous le rendre plus ardent. » « Ce n'est pas le manque d'ardeur que je lui reproche. C'est le manque d'initiative. Il en est des bêtes comme des gens. L'éducation abrutit les natures qui n'ont point en elles des ressources inépuisables. J'aime mieux un animal sauvage qui risque de me tuer qu'une mécanique à ressort souple qui m'endort. » « Et vous aimez mieux, observa le marquis, une individualité rude et fougueuse, qu'une personnalité effacée par le savoir-vivre. » répliqua-t-elle vivement. « Mais pardon, j'ai un peu chaud, je vais me rhabiller. » Elle lui tourna le dos et s'en alla vers le château. relevant adroitement sa jupe juste à la hauteur des franges de sa bottine. Monsieur de Rivonnière la suivit des yeux, comme absorbé, puis, me voyant près de lui, il m'offrit son bras, tandis que Monsieur Dietrich et sa sœur nous suivaient à quelque distance. Je vis bien que le marquis voulait s'assurer ma protection, car il me témoignait beaucoup de déférence, et après quelques préambules un peu embarrassés, il céda au besoin de m'ouvrir son cœur. « Je crois comprendre, me dit-il, que ma soumission déplaît à Mademoiselle Dietrich, et qu'elle aimerait un caractère plus original, un esprit plus romanesque. Pourtant, je sens très bien la supériorité qu'elle a sur moi, et je n'en suis pas effrayée. C'est quelque chose qui devrait m'être compté. » Ce qu'il disait là me sembla très juste et d'un homme intelligent. « Il est certain, lui répondis-je, que dans le temps d'égoïsme et de méfiance où nous vivons, accepter le mérite d'une femme supérieure sans raillerie et sans crainte n'est pas le fait de tout le monde. Mais puis-je vous demander si c'est le goût et le respect du mérite en général qui vous rassurent, ou si vous voyez dans ce cas particulier des qualités particulières qui vous charment ? Il y a de l'un et de l'autre. Me sentant épris du beau et du bien, je le suis d'autant plus de la personne qui les résume. Ainsi vous êtes épris de Césarine. Vous n'êtes pas le seul. Tout ce qui l'approche subit le charme de sa beauté morale et physique. Il faut donc un dévouement exceptionnel pour obtenir son attention. Je le pense bien. Je connais la mesure de mon dévouement et ne crains pas que personne la dépasse. Mais il y a mille manières d'exprimer le dévouement, tandis que les occasions de le prouver sont rares ou insignifiantes. L'expression, d'ailleurs, charme plus les femmes que la preuve, et j'avoue ne pas savoir encore sous quelle forme je dois présenter l'avenir, que je voudrais promettre riant et beau au possible. Ne me demandez pas de conseils. Je ne vous connais point assez pour vous en donner. Connaissez-moi, mademoiselle de Nermont, je ne demande que cela. Quand mademoiselle Dietrich m'interpelle, elle me trouble. Et peut-être n'est-ce pas la vérité vraie que je lui réponds. Avec vous, je serai moins timide. Je vous répondrai avec la confiance que j'aurai pour ma propre sœur. Faites-moi des questions, c'est tout ce que je désire. Si vous n'êtes pas contente de moi, vous me le direz. Vous me reprendrez. Tout ce qui viendra de vous me sera sacré. Je ne me révolterai pas. Avez-vous donc, comme on le prétend, la douceur des anges ? D'ordinaire, oui, mais par exception, j'ai des colères atroces. Que vous ne pouvez contenir ? C'est selon. Quand le dépit ne froisse que mon amour-propre, je le surmonte. Quand il me blesse au cœur, je deviens fou. Et que faites-vous dans la folie ? Comment le saurais-je ? Je ne m'en souviens pas, puisqu'il n'ai pas eu conscience de ce que j'ai fait. Mais quelquefois, vous avez dû l'apprendre par les autres. Ils m'ont toujours ménagé la vérité. Je suis très gâtée par mon entourage. C'est la preuve que vous êtes réellement bon. Hélas, qui sait ? C'est peut-être seulement la preuve que je sois riche. En êtes-vous à mépriser ainsi l'espèce humaine ? N'avez-vous point de vrais amis ? Si fait, mais ceux-là ne m'ayant jamais blessé, ne peuvent savoir si je suis violent. Cela pourrait cependant arriver. Que feriez-vous devant la trahison d'un ami ? Je ne sais pas. Et devant la résistance d'une femme aimée ? Je ne sais pas non plus. Vous voyez, je suis une brute, puisque je ne me connais pas et ne sais pas me révéler. Alors, vous ne faites jamais le moindre examen de conscience ? Je n'ai garde d'y manquer après chacune de mes fautes, mais je ne prévois pas mes fautes à venir.
Et cela me paraît impossible. Pourquoi ?
Parce que chaque sujet de trouble est toujours nouveau dans la vie. Aucune circonstance ne se présente identique à celle qui nous a servi d'expérience. Ne voyez donc d'absolu en moi que ce que j'y vois moi-même. Une parfaite loyauté d'intention. Il me serait facile de vous dire que je suis un être excellent et que je réponds de le demeurer toujours. C'est le lieu commun que tout fiancé débite avec aplomb aux parents et amis de sa fiancée. Eh bien, si j'arrive à ce rare bonheur d'être le fiancé de votre Césarine, je serai aussi sincère qu'aujourd'hui. Je vous dirai « Je l'aime ». Je ne vous dirai pas que je suis digne d'elle à tous égards et que je mérite d'être adorée. Pouvez-vous au moins promettre de l'aimer toujours ? Êtes-vous constant dans vos affections ? Oui, certes, mon amitié est fidèle. Mais en fait de femme, je n'ai jamais aimé que ma mère et ma sœur. Je ne sais rien de l'amour qu'une femme pure peut inspirer. Que dites-vous là ? Vous n'avez jamais aimé ? Non. Cela vous étonne ? Quel âge avez-vous donc ? 30 ans. Voici une mauvaise note pour mon carnet personnel. Jamais aimé à 30 ans ? Que voulez-vous ? Je ne peux pas appeler amour les émotions très sensuelles qu'éprouve un adolescent auprès des femmes. Un peu plus tard, les gens de ma condition abordent le monde et n'y conservent pas d'illusions. Ils sont placés entre la coquetterie effrénée des femmes qui exploitent leurs hommages et l'avidité honteuse de celles qui n'exploitent que leur bourse. Ce sont les dernières qui l'emportent, parce qu'il est plus facile de s'en débarrasser. Ainsi, vous n'avez eu que des courtisanes pour maîtresse ? Mademoiselle de Nermont, je pense bien que vous rendrez compte de toutes mes réponses à Mademoiselle Dietrich. Mais je présume qu'il est un genre de question qu'elle ne vous fera pas. Je vous dirai donc la vérité. Courtisanes et femmes du monde, cela se ressemble beaucoup quand ces dernières ne sont pas radicalement vertueuses. Il y en a, certes, je le reconnais, et il fut un temps, assure-t-on, où celles-ci inspiraient de grandes passions. Mais aujourd'hui, si nous sommes moins passionnés, nous sommes plus honnêtes. Nous respectons la vertu et la laissons tranquille. Les jeunes gens corrompus feignent de la dédaigner sous prétexte qu'elle est ennuyeuse. Moi, je la respecte sincèrement, surtout chez les femmes de mes amis. Et puis, les femmes honnêtes, étant plus rares qu'autrefois, sont plus fortes, plus difficiles à persuader. Et il faudrait faire le métier de Tartuffe pour les vaincre. Je ne me reproche donc pas d'avoir voulu ignorer l'amour que seules peuvent inspirer de telles femmes. Quelque mauvais que soit le monde actuel, il a cela de supérieur au temps passé que les hommes qui se marient après avoir assouvi leur passion fort peu idéale peuvent apporter à la jeune fille qu'ils épousent un cœur absolument neuf. Les roués d'autrefois, blasés sur la femme élégante et distinguée, vainqueurs en outre de maintes innocences, ne pouvaient se vanter de l'ingénuité morale que la légèreté de nos mœurs laisse subsister chez la plupart d'entre nous. Il me paraît donc impossible de ne pas aimer Mademoiselle Dietrich avec une passion vraie et de ne pas l'aimer toujours, fût-on y conduit par elle. Car aujourd'hui, évidemment maltraitée, je me sens aussi enchaînée que je l'étais avant-hier par quelques paroles bienveillantes. Nous arrivions au salon où Césarine, qui avait marché plus vite que nous et qui portait une fabuleuse activité en toutes choses, était déjà installée au piano. Elle s'était rhabillée avec un goût exquis et pourtant elle se leva brusquement en voyant entrer le marquis. Un léger mouvement de contrariété se lisait dans sa physionomie. On eût dit qu'elle ne comptait pas le revoir. Il s'en aperçut et prit congé. Il fut quelques jours sans reparaître. D'abord, Césarine m'assura qu'elle était charmée de l'avoir découragée. Bientôt, elle fut piquée de sa susceptibilité. Il n'y put tenir et revint. Elle fut aimable, puis elle fut cruelle. Il bouda encore et il revint encore. Ceci dura quelques mois. Cela devait durer toujours. C'est que le marquis, au premier aspect, semblait très facile à réduire. Césarine l'avait vite pris en pitié et en dégoût lorsqu'elle s'était imaginée qu'elle avait affaire à une nature d'esclave. Mais la soudaineté et la fréquence de ses dépits la firent revenir de cette opinion. C'est un boudeur, disait-elle. C'est moins ennuyeux qu'un extatique. Elle reconnaissait en lui de grandes et sérieuses qualités. Une bravoure de cœur et de tempérament remarquable, une véritable générosité d'instinct, une culture d'esprit suffisante, une réelle bonté, un commerce agréable quand on ne le froissait pas. En somme, il méritait si peu d'être froissé qu'il était dans son droit de ne pas le souffrir. Au bout de notre saison d'été à la campagne, M. Dietrich pressa Césarine de s'expliquer sur ses sentiments pour le marquis. « Je n'ai rien décidé, répondit-elle. Je l'aime et l'estime beaucoup. S'il veut se contenter d'être mon ami, je le reverrai toujours avec plaisir. Mais s'il veut que je me prononce à présent sur le mariage, qu'il ne revienne plus, ou qu'il ne revienne pas plus souvent que nos autres voisins. » Monsieur Dietrich n'accepta point cette étrange réponse. Il remontra qu'une jeune fille ne peut faire son amie d'un homme épris d'elle. « C'est pourtant ce à quoi j'aspire d'une façon générale, » répondit Césarine. « Je trouve l'amitié des hommes plus sincère et plus noble que celle des femmes. Et comme ils y mêlent toujours quelques prétentions de plaire, si on les éloigne, on se trouve seul avec les personnes du sexe enchanteur. » Jaloux et perfide, à qui l'on ne peut se fier. Je n'ai qu'une amie, moi, c'est Pauline, je n'en désire point d'autre. Il y a bien ma tante, mais c'est mon enfant bien plus que mon ami. Mais en fait, ami, vous avez moi et votre oncle. Vous ferez bien d'en rester là. Vous oubliez, cher père, quelques douzaines de jeunes et vieux cousins qui me sont très cordialement dévoués, j'en suis sûre, et à qui vous trouvez bon que je témoigne de l'amitié. Aucun d'eux n'aspire à ma main. Les uns sont mariés ou pères de famille, les autres savent trop ce qu'ils vous doivent pour se permettre de me faire la cour. Je ne vois pas pourquoi le marquis ne ferait pas comme eux, pour une autre raison, la crainte de m'ennuyer. « Heureusement, le marquis n'acceptera point cette situation ridicule. »« Pardon, mon papa. Faute de mieux, il l'accepte. »« Ah, oui, da, vous lui avez dit, soyez mon complaisant pour le plaisir de l'être ?»« Non, je lui ai dit, soyez mon camarade jusqu'à nouvel ordre. »« Son camarade !» s'écria M. Dietrich en s'adressant à moi avec un haussement d'épaules. « Elle devient folle, ma chère amie !»« Oui, je sais bien, » reprit Césarine. « Ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. »« Le fait est, » ajouta-t-elle en éclatant de rire, « que je n'ai pas le sens commun, cher papa. Eh bien, je dirai à monsieur de Rivonnière que vous m'avez trouvé absurde et que nous ne devons plus nous voir. » Là-dessus, elle prit son ouvrage et se mit à travailler avec une sérénité complète. Son père l'observa quelques instants, espérant voir percer le dépit ou le chagrin sous ce facile détachement. Il ne put rien surprendre. Toute la contrariété fut pour lui. Il avait pris Jacques de Rivonnière en grande amitié. Il l'avait beaucoup encouragé, il le désirait vivement pour son gendre. Il n'avait pas assez caché ce désir à Césarine. Naturellement, elle était résolue à l'exploiter. Quand nous fûmes seuls, je la grondais. Comme toujours, elle m'écouta avec son bel œil étonné. Puis, m'ayant laissé tout dire, elle me répondit avec une douceur enjouée. « Vous avez peut-être raison. Je fais de la peine à papa. » Et j'ai l'air de le forcer à tolérer une situation excentrique entre le marquis et moi, ou de renoncer à une espérance qui lui est chère. Il faut donc que je renonce, moi, à une amitié qui m'est douce, ou que j'épouse un homme pour qui je n'ai pas d'amour, pour qui je n'aurai par conséquent ni respect ni enthousiasme. Est-ce là ce que l'on veut ? Je suis peut-être capable de ce grand sentiment qui fait qu'on est heureux dans la vertu, quelque difficile qu'elle soit. Veut-on que je me sacrifie et que j'aie la vertu douloureuse, héroïque ? Je ne dis pas que cela soit au-dessus de mon pouvoir, Mais franchement, monsieur de Rivonnière est-il un personnage si sublime? Et mon père lui a-t-il voué un tel attachement que je doive me river à cette chaîne pour leur faire plaisir à tous deux et sacrifier ma vie, que l'on prétendait vouloir rendre si belle? Répondez, chère Pauline, cela devient très sérieux. Autorisez-moi, lui dis-je, à répéter ce que vous dites à votre père et au marquis. Tous deux renonceront à vous contrarier. Votre père se privera de ce nouvel ami, et le nouvel ami, que vous n'avez persuadé d'attendre qu'en lui laissant de l'espérance, comprendra que sa patience compromettrait votre réputation et aboutirait peut-être à une déception pour lui. « Faites comme vous voudrez, » reprit-elle, « je ne désire que la paix et la liberté. » Il vaudrait mieux, puisque vous voilà si raisonnable, dire vous-même à monsieur de Rivonnière que vous ajournez indéfiniment son bonheur.
Je le lui ai dit.
Et que vous faites à sa dignité ainsi qu'à sa réputation
le sacrifice de l'éloigner. Il n'accepte pas cela. Il demande à me voir, si peu que ce soit, et dans de telles conditions qu'il me plaira de lui imposer. Il demande en quoi il s'est rendu indigne d'être admis dans notre maison. C'est à mon père de l'en chasser. Moi, je trouve la chose pénible et injuste. Je ne me charge pas de l'exécuter. »
Rien ne put la faire transiger. Monsieur Dietrich recula. Il ne voulait pas fermer sa porte à monsieur de Rivonnière pour qu'elle lui fût rouverte au gré du premier caprice de Césarine. Il lui en coûtait d'ailleurs de mettre à néant les espérances qu'il avait caressées. Le marquis fut donc autorisé à venir nous voir à Paris, et Césarine enregistra cette concession paternelle comme une chose qui lui était due et dont elle n'avait à remercier personne. Son aimable tournure d'esprit, ses gracieuses manières avec nous, ne nous permettaient pas de la traiter d'impérieuse et de fantasque. Mais elle ne cédait rien. Elle disait « Je vous aime ». Jamais elle ne disait « Je vous remercie ». Nous revînmes à Paris, l'époque accoutumée, et là, Césarine, qui avait dressé ses batteries, frappa un grand coup dont monsieur de Rivonnière fut le prétexte. Elle voulait amener son père à rouvrir les grands salons et à reprendre à domicile les brillantes et nombreuses relations qu'il avait eues du vivant de sa femme. Césarine lui remontra que si on la tenait dans l'intimité de la famille, elle ne se marierait jamais, vu que l'apparition de tout prétendant serait une émotion, un événement dans le petit cercle. Que, pour peu qu'après y avoir admis monsieur de Rivonnière, on vint à en admettre un autre, on lui ferait la réputation d'une coquette ou d'une fille difficile à marier, que l'irruption du vrai monde dans ce petit cloître de fidèles pouvait seule l'autoriser à examiner ses prétendants sans prendre d'engagement avec eux et sans être compromise par aucun d'eux en particulier. Monsieur Dietrich fut forcé de reconnaître qu'en dehors du commerce du monde, il n'y a point de liberté, que l'intimité rend esclave des critiques ou des commentaires de ceux qui la composent, que la multiplicité et la diversité de relations sont la sauvegarde du mal et du bien. Enfin que, pour une personne sûre d'elle-même comme l'était Césarine, c'était la seule atmosphère où sa raison, sa clairvoyance et son jugement puissent s'épanouir. Elle avait des arguments plus forts que n'en avait eu sa mère, uniquement dominée par l'ivresse du plaisir. Monsieur Dietrich, qui avait cédé de mauvaise grâce à sa femme, se rendit plus volontiers avec sa fille. Une grande fête inaugura le nouveau genre de vie que nous devions mener. Le lendemain de ce jour si laborieusement préparé et si magnifiquement réalisé, je demandai à Césarine, pâle encore des fatigues de la veille, si elle était enfin satisfaite. « Satisfaite de quoi ? » me dit-elle. « D'avoir revu le tumulte dont on avait bercé mon enfance ?
Croyez-vous, cher ami, que le néant de ces splendeurs soit chose nouvelle pour moi? Me prenez-vous pour une petite ingénue enivrée de son premier bal? Ou croyez-vous que le monde ait beaucoup changé depuis 3 ans que je l'ai perdu de vue? Non, non, allez, c'est toujours le même vide, et décidément je le déteste. Mais il faut y vivre, ou devenir esclave dans l'isolement. La liberté vaut bien qu'on souffre pour elle. Je suis résolue à souffrir, puisqu'il n'y a pas de milieu à prendre. À propos, ajouta-t-elle, je voulais vous dire quelque chose. Je ne suis pas assez gardée dans cette foule. Mon père est si peu homme du monde qu'il passe tout son temps à causer dans un coin avec ses amis particuliers, tandis que les arrivants, cherchant partout le maître de la maison, viennent en désespoir de cause demander à ma tante Elmina de m'être présentée. Ma tante a une manière d'être et de dire, avec son accent allemand et ses préoccupations de ménagère, qui fait qu'on l'aime et qu'on se moque d'elle. La véritable maîtresse de la maison, quant à l'aspect et au maintien, c'est vous, ma chère Pauline. Et je ne trouve pas que vous soyez mise assez en relief par votre titre de gouvernante. Il y aurait un détail bien simple pour changer la face des choses. C'est qu'au lieu de nous dire « vous », nous fissions acte de tutoiement réciproque une fois pour toutes. Ne riez pas. En me disant « toi », vous devenez mon ami de cœur, ma seconde mère, l'autorité, la supériorité que j'accepte. Le « vous » vous tient à l'état d'associé de second ordre, et le monde, qui est sot, peut croire que je ne dépends de personne. N'est-ce pas votre ambition? Oui, en fait, mais non en apparence. Je suis trop jeune, je serai raillée, mon père serait blâmé. Voyons, portons la question devant lui, je suis sûre qu'il m'approuvera. En effet, M. Dietrich me pria de tutoyer sa fille et de me laisser tutoyer par elle. L'effet fut magique dans l'intérieur. Les domestiques, dont je n'avais d'ailleurs pas à me plaindre, se courbèrent jusqu'à terre devant moi. Les parents et amis regardèrent ce tutoiement comme un traité d'amitié et d'association pour la vie. Je ne sais si le monde y fit grande attention. Quant à moi, en me prêtant à ce prétendu hommage de mon élève, je me doutais bien de ce qui arriverait. Elle ne voulait pas me laisser l'autorité de la fonction, et en me parant de celle de la famille, elle se constituait le droit de me résister comme elle lui résistait. Cependant, quelqu'un osait lui résister, à elle. Malgré des invitations répétées, M. de Rivonnières, en vue de qui Césarine avait amené son père à faire tant de mouvements et de dépasses, ne profita nullement de l'occasion. Il ne parut ni à la première soirée ni à la seconde. Ses parents le disaient malade. On envoya chercher de ses nouvelles, il était absent. Un jour, comme j'étais sortie seule pour quelques emplettes, je le rencontrai. Nous étions à pied, je l'abordai après avoir un peu hésité à le reconnaître. Il n'était pas vêtu et cravaté avec la recherche accoutumée. Il avait l'air, sinon triste, du moins fortement préoccupé. Il ne paraissait pas se soucier de répondre à mes questions, et j'allais le quitter lorsque, par un soudain parti pris, il m'offrit son bras pour traverser la cour du Louvre. « Il faut que je vous parle, » me dit-il, « car il est possible que Mademoiselle Dietrich ne dise pas toute la vérité sur notre situation réciproque. Elle ne s'en rend peut-être pas compte elle-même. Elle ne se croit pas brouillée avec moi. Elle ignore peut-être que je suis brouillée avec elle. » Brouillée me paraissait un bien gros mot pour le genre de relation qui avait pu s'établir entre eux. Je le lui fis observer. Vous pensez avec raison, reprit-il, qu'il est difficile de parler clairement amour et mariage à une jeune personne si bien surveillée par vous. Mais quand on ne peut parler, on écrit. Et Mademoiselle Dietrich n'a pas refusé de lire mes lettres, elle a même daigné y répondre. Dites-vous la vérité ? M'écriai-je. La preuve, répondit-il. C'est qu'en vous voyant prête à me quitter tout à l'heure, j'ai senti que je devais lui renvoyer ses lettres.
Voulez-vous me permettre de les faire porter chez vous dès ce soir ?
Certainement. Vous agissez là en galant homme.
Non, j'agis en homme qui veut guérir. Les lettres de Mademoiselle Dietrich pourraient être lues dans une conférence publique, tant elles sont pures et froides. Elle ne me les a pas redemandées. Je ne crois même pas qu'elle y songe. Si le fait d'écrire est une imprudence, la manière d'écrire est chez elle une garantie de sécurité. Cette fille, vraiment supérieure,
peut s'expliquer sur ses propres sentiments
et dire toutes ses idées sans donner sur elle le moindre avantage et sans permettre le moindre blâme à ses victimes.
Alors, pourquoi êtes-vous brouillé ?
Je suis brouillé, moi, avec l'espérance de lui plaire et le courage de le tenter. Un moment, je me suis fait illusion en voyant qu'elle travaillait à me faire place dans son intimité. Elle m'offrait d'être son amie, et j'ai été assez fat pour me persuader qu'une personne comme elle n'accorderait pas ce titre à un prétendant destiné à échouer comme un autre. J'ai laissé voir ma sotte confiance, elle m'en a raillé en me disant qu'elle rentrait dans le monde et qu'il ne tenait qu'à moi de l'y rejoindre. Cette fois, j'ai eu du chagrin, j'ai eu le cœur brisé. J'ai renoncé à elle, vous pouvez le lui dire. Elle ne le croira pas. Je ne le crois pas beaucoup non plus. Eh bien, sachez que j'ai mis un obstacle, une faute entre elle et moi. Je me suis jetée dans une aventure stupide, coupable même, mais qui m'étourdit, m'absorbe et m'empêche de réfléchir. Cela vaut mieux que de devenir fou ou de s'avilir dans l'esclavage. Voilà ma confession faite. Ce soir, vous aurez les lettres. Je m'en retourne de ce pas à la campagne, où je cache mes folles amours, à 2 lieues de Paris, tandis que ma famille et mes amis me croient partis pour la Suisse. Je reçus effectivement le soir même un petit paquet, soigneusement cacheté, que j'allais déposer dans le bureau de lac de Césarine. Elle eût été fort blessée de me voir en possession de ce petit secret. Elle ne sut pas tout de suite comment la restitution avait été faite. Elle ne m'en parla pas. Mais au bout de quelques jours, elle me raconta le fait elle-même et me demanda si les lettres avaient passé par les mains de son père. Je la rassurai. « Elles t'auront été rapportées, lui dis-je, par la personne qui servait d'intermédiaire à votre correspondance. »« Il n'y a personne, répondit-elle. Je ne suis pas si folle que de me confier à des valets. Nous échangions nos lettres nous-mêmes à chaque entrevue. Il m'a porté les siennes dans un bouquet. » Il trouvait les miennes dans un certain cahier de musique posé sur le piano et qu'il avait soin de feuilleter d'un air négligent. Il jouait assez bien cette comédie.
Mais cependant, tu m'avais prié d'assister à vos entrevues. Pourquoi écrire en cachette quand tu n'avais qu'à me faire un signe pour m'avertir que tu voulais lui parler en confidence? Que veux-tu? Ce mystère m'amusait. Et qu'est-ce que mon père eût dit si je t'eusse fait manquer à ton devoir? Voyons, ne me fais pas de reproches. Je m'en fais. Explique-moi comment ces lettres sont là. Il faut qu'il ait pris un confident. Si je le croyais.
Ne l'accuse pas. Ce confident, c'est moi.
À la bonne heure, tu l'as donc vu?
Je racontais tout, sauf le moyen que monsieur de Rivonnière avait pris pour se guérir. Il est un genre d'explication dont on ne se fait pas faute à présent avec les jeunes filles du monde et que je n'avais jamais voulu aborder avec Césarine, ni même devant elle. Sa tante n'avait de prudence que sur ce point délicat et M. Dietrich, chaste dans ses mœurs, l'était également dans son langage. Césarine, malgré sa liberté d'esprit, était donc fort ignorante des détails malséants dont l'appréciation est toujours choquante chez une jeune fille. La petite Irma Dietrich, sa cousine, en savait plus long qu'elle sur le rôle des femmes galantes et des grisettes dans la société. Césarine, qui n'avait jamais montré aucune curiosité malsaine, la faisait taire et la rudoyait. Elle prit donc le change quand je lui appris que le marquis se jetait, par réaction contre elle, dans une affection. Elle crut qu'il voulait faire un autre mariage et me parut fort blessée. « Tu vois, me dit-elle, j'avais bien raison de douter de lui et de ne pas répondre à ses beaux sentiments. Voilà comme les hommes sont sérieux. Il disait qu'il mourrait si je lui ôtais tout espoir. Je lui en laissais un peu et le voilà déjà guéri. Tiens, je veux te montrer ses lettres. Relisons-les ensemble. Cela me servira de leçon. C'est une première expérience que je ne veux pas oublier. » Les lettres du marquis étaient bien tournées, quoique écrites avec spontanéité. Je crus y voir l'élan d'un amour très sincère, et je ne pus m'empêcher d'en faire la remarque. Césarine se moqua de moi, prétendant que je ne m'y connaissais pas, que je lisais cela comme un roman, que, quant à elle, elle n'avait jamais été dupe. Quand nous eûmes fini ces lettres, elle fit le mouvement de les jeter au feu avec les siennes. Mais elle se ravisa. Elle les réunit, les lia d'un ruban noir et les mit au fond de son bureau en plaisantant sur ce deuil du premier amour qu'elle avait inspiré. Mais je vis une grosse larme de dépit rouler sur sa joue et je pensais que tout n'était pas fini entre elle et monsieur de Rivonnières. L'hiver s'écoula sans qu'il reparût. 10 autres aspirants se présentèrent. Il y en avait pour tous les goûts. Variété d'âge, de rang, de caractère, de fortune et d'esprit. Aucun ne fut agréé, bien qu'aucun ne fût absolument découragé. Césarine voulait se constituer une cour, ou plutôt un cortège, car elle n'admettait aucun hommage direct dans son intérieur. Elle aimait à se montrer en public avec ses adorateurs, à distance respectueuse.
Elle se faisait beaucoup suivre.
Elle se laissait fort peu approcher. Nous passâmes l'été à Mireval et au bain de mer. Nous retrouvâmes là monsieur de Rivonnières, qui reprit sa chaîne comme s'il ne l'eût jamais brisée. Il me demanda si j'avais trahi le secret de sa confession. « Non, lui dis-je, il n'était pas de nature à être trahi. Pourtant, si vous épousez Césarine, j'exige que vous vous confessiez à elle, car je ne veux pas être votre complice.
Quoi ? S'écria-t-il. Faudra-t-il que je raconte à une jeune fille
dont la pureté m'est sacrée les vilaines ou folles aventures qu'un garçon raconte tout au plus à ses camarades ?
Non, certes, mais cette fois-ci vous avez été coupable, m'avez-vous dit.
Raison de plus pour me taire.
« C'est envers Césarine que vous l'avez été, puisque vous voilà revenu à elle avec une souillure que vous n'aviez pas. »«
Eh bien, soit, dit-il, je me confesserai quand il le faudra. Mais pour que j'aie ce courage, il faut que je me voie aimer. Jusque-là, je ne suis obligé à rien. Je suis redevenu libre. Je lui sacrifie un petit amour assez vif. Que ne ferait-on pas pour conquérir le sien ?»
Césarine l'aimait-elle. Au plaisir qu'elle montra de le remettre en servage, on eût pu le croire. Elle avait souffert de son absence. Son orgueil en avait été très froissé. Elle n'en fit rien paraître et le reçut comme s'il l'eût quitté la veille. C'était son châtiment, il le sentit bien. Et quand il voulut revenir à ses espérances, elle ne lui fit aucun reproche. Mais elle le replaça dans la situation où il était l'année précédente, assurant ses promesses d'amitié, défense de parler d'amour. Il se consola en reconnaissant qu'il était encore le plus favorisé de ceux qui rendaient hommage à son idole. Je terminerai ici la longue et froide exposition que j'ai dû faire d'une situation qui se prolongea jusqu'à l'époque où Césarine eut atteint l'âge de sa majorité. Je comptais franchir plus vite les 5 années que je consacrais à son instruction, car j'ai supprimé, à dessein, le récit de plusieurs voyages, la description des localités qui furent témoins de son existence et le détail des personnages secondaires qui y furent mêlés. Cela m'eût mené trop loin.
J'ai hâte maintenant d'arriver aux événements qui troublèrent si sérieusement notre quiétude, et qu'on n'eût pas compris si je ne me fusse astreinte à l'analyse du caractère exceptionnel dont je surveillais le développement jour par jour.